Chapitre 2. La leçon. Maître Keller se regarda dans le miroir ovale au teint tacheté et bruni de sa mansarde. De quoi avait-il l'air? D'un pauvre qui joue aux riches, d'un gueux qui se pique d'élégance. Il détailla d'un œil sévère son pourpoint douteux et ses chausses, le cuir avachi de sa ceinture et de sa sacoche, ses bottes propres mais usées. Puis, en haussant les épaules, il redescendit dans la salle de la frontière, où les servantes échangèrent quelques regards amusés et quelques gloussements stupides. Enfin, il s'arma de courage et sortit dans la rue. Comme toujours, le contraste entre le calme relatif de son auberge et l'agitation bruyante de la rue l'agressait. N'étaient d'ailleurs les cours qu'il prenait chaque semaine auprès de ce vieux renard de Quetel, il ne sortirait presque plus. Après tout, il était assez riche maintenant pour se permettre quelques excentricités. Les encensoirs urbains diffusaient ce parfum écœurant qui masquait mal les odeurs de friture, de sueur et de crottin qui empuantissaient la ville. Il porta son mouchoir à son nez et le tint ainsi, marchant d'un pas rapide, l'air pressé et renfermé. Celui qui lui adresserait la parole ce matin le regretterait toute la journée. En tournant au coin de la rue descendante, les chafouins se firent plus nombreux. Keller détestait ces animaux. Trois d'entre eux s'en prenaient à un vieux mendiant qui avait eu le malheur d'exposer son déjeuner à l'air libre. Le premier chafouin, avec une ténacité diabolique, tentait de le lui arracher des mains tout en émettant des piaillements suraigus. Le deuxième était grimpé sur la tête de l'homme, lui bouchait le nez et lui tirait les cheveux. Le troisième enfin lui mordait la cheville. Le combat était inégal et le mendiant abandonna son repas au bout de quelques secondes. Les trois chafouins se battirent un moment. Puis le plus âgé d'entre eux, Keller le voyait à son poil blanchi, procéda à une sorte de partage, et ils s'enfuirent tous, l'un par la façade d'une maison qu'il escalada à toute allure, les deux autres par un trou dans le sol. Le mendiant pleurait, exténué, humilié, et sans doute affamé. Keller chercha une obole dans ses poches et la jeta à terre devant lui. « Il ne faut pas tenter ces satanées bestioles, grommela-t-il. Cache-toi pour manger !» Le mendiant ramassa vivement la pièce et la cacha dans les replis de sa bure. « Merci, maître Keller, marmonna-t-il. Ne me remercie pas et tâche de ne pas te faire voler ta pièce par ces saletés. » Keller rajusta son mouchoir sur son nez et pressa le pas. Ce vieil idiot allait sans doute jouer avec l'obole, la faire rouler entre ses doigts, et d'autres chafouins arriveraient à la lui prendre. Ces maudites bêtes aimaient tout ce qui se mangeait et tout ce qui brillait. Elles se faufilaient dans des interstices incroyablement étroits, grimpaient avec une agilité inégalable, se jouaient des pièges qu'on leur tendait, faisaient preuve d'un acharnement exaspérant, salissaient ou saccageaient tout pour s'amuser ou assouvir leurs besoins, et ce fléau, que Keller tenait parfois pour le pire de la ville basse, n'était combattu efficacement par personne. Les chafouins copulaient et se multipliaient sans cesse, beaucoup plus vite qu'on ne les exterminait. Le reste du trajet se déroula sans incident. Il crotta ses bottes, comme de bien entendu, et jura tout son soûl. Il croisa des ivrognes et des prostituées, des gamins chapardeurs, des hommes à l'air louche. D'ailleurs, songea-t-il, il ne déparait pas dans cette faune. Il rendit cependant grâce à Quetel de bien vouloir le recevoir pendant les heures de travail, car la ville basse, en ses heures diurnes, était un peu plus morte et donc plus supportable que le soir. On pouvait du moins s'y déplacer sans jouer des coudes, ni craindre de voir son obolière tranchée à la hâte. Il était encore un peu tôt, et les magasins ouvraient à peine. Étals de nourriture de moyenne fraîcheur et grossiers objets utilitaires vendus le triple de ce qu'ils valaient. Et dire qu'à moins d'une lieue, les palais d'albâtre, où aucun d'eux n'irait jamais, coulaient lentement leur existence de luxe et de lumière. Il arriva en vue de l'immeuble de Quetel. L'apostat avait eu le nez fin. Il avait choisi le pire immeuble de la rue, le plus sale, le plus lézardé, le plus bancal. Nulle part ailleurs, il ne pouvait trouver logement plus discret. Keller utilisa son mouchoir pour pousser la poignée de la porte, recouverte par un liquide suspect, et monta 4 à 4 les escaliers. Arrivé sur le palier, il se rajusta un peu. Quetel avait beau vivre dans le pire immeuble de la rue et être obligé de donner des cours pour gagner de quoi vivre, il n'en restait pas moins l'homme le plus élégant que Keller connaissait. Ce n'était pas une question de vêture, mais plutôt une retenue, un maintien, une fierté. Oui, c'est cela qui faisait tant défaut aux bas citoyens, la fierté. Comme d'habitude, Quetel ouvrit la porte avant que Keller ait eu le temps de frapper. Il utilisait encore sans doute l'une de ses facultés mentales dont Keller brûlait de tout connaître. Mais, par fierté justement, il ne le demanda pas plus aujourd'hui que les autres fois. Kettel était un vieillard facétieux et excentrique, et ses yeux pétillaient aujourd'hui avec une malice particulière. « Ah, maître Keller !» dit-il, en faisant une révérence un peu moqueuse. « Élève Keller !» corrigea celui-ci d'un ton bourru. « Entrez, entrez, je vous en prie !» Dans un froissement de sa toge élimée d'une belle couleur lavande, les cheveux tressés d'une manière si grotesque qu'elle ne pouvait paraître naturelle même chez un haut citoyen, le vieux Kettel poussait Keller dans son antre. Keller, comme à chaque fois, frémit d'admiration devant cet intérieur, qui était comme l'exact opposé de ce qu'on y attendait. Il y avait là, certes, un désordre fou, mais un désordre de belles choses, de sculptures et de peintures étranges, d'instruments inconnus, de livres enluminés. Non pas le désordre suffocant de la ville basse, mais celui plein de charme et de surprise, d'un esprit supérieurement fantaisiste. « Comment allez-vous, élève Keller ?» demanda le vieil homme en langue noble. « Bien, je vous remercie, » répondit Keller avec un léger accent. Le vieil homme émit une sorte de gloussement d'aise, et Keller ne put lui en vouloir, car sa bienveillance lui était acquise. Kettel arborait ses rides, sa pierre frontale, et même sa cicatrice, d'une manière qui plaisait à Keller, avec la même désinvolture que tout le reste. Il semblait parfois que son bannissement n'était qu'un mauvais tour qu'il avait joué. Keller saisit son obolière et commença à compter les petites boules de verre coloré qu'il devait lui donner. Il était homme à payer largement et d'avance lorsqu'il avait confiance. « Non, non, non !» dit Kettel en langue vulgaire. « Pas aujourd'hui !» Keller fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« Asseyez-vous, mon ami, et ne vous inquiétez pas, je vous donnerai quand même la leçon. Mais aujourd'hui est un peu spécial, car je vais vous demander un service. » Keller soupesa les oboles dans sa main. « Est-ce que ce service est de nature à vous fournir le bois pour vous chauffer ?»« Non, certes !» dit Kettel. « Alors laissez-moi vous payer quand même, cela me laissera libre de refuser si le service me semble inacceptable. » Kettel dodelina de la tête comme s'il pesait le pour et le contre. « Oh, vous allez sans doute monter sur vos grands chevaux et vous mettre en colère !»« Allez-y, dites-moi tout !» soupira Keller en déposant les oboles dans une coupe posée sur un meuble. « Eh bien, voilà! Tout d'abord, il s'agit d'une jeune fille !» Keller fronça les sourcils. Les mots mêmes de « jeune fille » étaient synonymes pour lui de « source d'ennui ».« Attendez, ce n'est pas tout !» poursuivit Kettel. « C'est une jeune fille de la haute ville !»« En quoi cela me concerne-t-il »« D'après mes renseignements, elle a été un peu têtue. »« Têtue. En fait, il se pourrait bien qu'elle soit à l'heure qu'il est en train de traverser le canal frontière pour la dernière fois. » Keller grogna. « Et bien évidemment, grommela-t-il, vous voudriez que je prenne soin d'elle, comme si j'avais besoin d'une enfant gâtée qui a choisi l'apostasie pour emmerder son papa et qui va pleurnicher toutes les 5 minutes parce que rien ne sera assez bon pour elle. Franchement, qu'est-elle, vous ? Je suis sûre que si vous connaissiez son papa, vous auriez vous-même envie de lui voler dans les plumes, » remarqua-t-il en souriant. « Ce n'est pas la question, » s'emporta Keller. « Les hauts citoyens constituent la moitié de ma clientèle, et si je l'embauche comme servante, ils fuiront tous la frontière, comme la peste. » « Comme servante, gloussa Kettel, vous n'y pensez pas, voyons !» Keller le dévisagea. « Parce qu'en plus, il va falloir la nourrir et la loger à ne rien faire. Oui, pardon, j'oubliais que cette petite princesse n'a jamais rien fait de ses 10 doigts, et que ses nombreux talents pour jacasser et jouer du luth ne me seront jamais d'aucune utilité. » Kettel avait manifestement du mal à garder son sérieux, ce qui exaspérait encore plus Keller. « Elle pourrait vous enseigner la langue noble, » suggéra-t-il. « Merci, mais j'avais un professeur qui me convenait parfaitement jusqu'à aujourd'hui. » Il y eut un silence un peu tendu, mais Kettel était patient, et il savait qu'au fond de Keller, la curiosité l'emporterait sur le reste. « Je vous avais bien dit que vous monteriez sur vos grands chevaux, » observa-t-il calmement. « Quel est mon intérêt dans cette affaire ?»« Aucun, j'en conviens, » dit patiemment Kettel. « C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai demandé un service, et non proposé un marché. » « Ah, ne jouez pas sur les mots, hein, ce n'est pas le moment. » Kettel se tassa un peu dans son fauteuil et accepta la rebuffade. « C'était une petite fille très attachante, » hasarda-t-il au bout d'une minute. « Elle fait partie de votre famille ?»« Non, j'ai seulement été son professeur. »« Son professeur ? Mais vous m'avez dit que cela faisait 15 ans que... » »« Précisément, Eleanor avait tout juste 5 ans. » Keller paraissait abasourdi. « Ne me dites pas qu'un lettré comme vous était payé pour s'occuper de morveux de 5 ans. »« Et pourquoi pas ? En premier lieu, je n'étais pas plus lettré que les autres là-haut. En outre, on a toujours pris grand soin du développement intellectuel des jeunes enfants. Il aurait été inconcevable de confier cette tâche à une personne de moindre qualité. Enfin, si je puis me permettre, je vous rappelle que le salaire n'a pas cours en Haute-Ville. On doit son travail à sa guilde. Kettel savait qu'il touchait là une corde sensible, celle de la fascination que Keller éprouvait pour les détails de la Haute-Ville. Sa soif de connaître était insatiable, et c'est précisément pour ça qu'il allait, bon gré mal gré, s'occuper d'Elénor. Keller se leva et tourna un moment dans la pièce comme un lion en cage, ou plutôt comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, à en juger par les mimiques inquiètes de Kettel qui le suivait du coin de l'œil. « Vous souhaitez une tasse de thé ?» demanda le vieil homme. « Un alcool fort serait plus approprié. » Kettel disparut dans sa cuisine et revint avec deux petits verres en cristal coloré et une antique bouteille poussiéreuse. Il servit délicatement le liquide dans les verres avec parcimonie. « Vous êtes bien avare, » dit Keller d'un ton acerbe. « Cet alcool est très fort, » se défendit Kettel. Keller prit le minuscule verre dans ses mains et craignit un instant de le briser tant sa paroi était fine. Il avala tout d'un trait et secoua la tête violemment. « En effet, » dit-il. « Bon, voici ce que je vous propose. Je m'occupe de cette fille, mais en échange, vous me racontez tout.
Tout ?»
Vous vous engagez à répondre à toutes mes questions. Vous m'expliquerez quels sont vos liens avec l'intérieur de la Haute-Ville. Vous m'en dessinerez une carte, vous me donnerez des noms, vous m'aiderez par tous les moyens à trouver ce que je cherche. » Kettel applaudit et sumecta les lèvres dans son verre. Puis il le leva. « Je suis ravie, Keller, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais sans indiscrétion, que cherchez-vous ? Un autre jour, je vous le dirai. Là, vous m'excuserez, mais je ne suis pas d'humeur. » Kettel sourit. « Vous ne me demandez pas pourquoi je ne veux pas m'en occuper moi-même ?»« Si, » dit Keller, « je n'y avais pas songé, mais maintenant que vous me le dites, la question me paraît essentielle. »«
Eh bien, vous savez, je vous considère comme un ami. »
Keller leva les yeux au ciel, mais il ressentit beaucoup de fierté à être appelé ainsi par ce vieux Grigou.
« Et je suis à peu près sûre que cette jeune fille va beaucoup vous plaire. »«
Je suis à peu près sûre du contraire, alors rangez vos entremises, vieux maquereau. » Kettel éclata d'un petit rire aigu, puis redevint très sérieux l'instant suivant.
« Croyez-vous au destin, maître Keller ?»«
Ni père, ni dieu, ni maître, » répondit Keller tout aussi sérieusement. « Je ne crois qu'à la force de la volonté. » La pierre frontale de Kettel se mit à diffuser une chaude lumière jaune, très apaisante, comme cela lui arrivait parfois. Mais Keller n'avait pas la moindre idée de ce que cela pouvait bien signifier. Chapitre 3. L'arrivée. Elénor se sentait mal, épuisée par ses efforts mentaux, par la douleur physique, par son désespoir. Elle avait imperceptiblement perdu de sa superbe lorsque les gardes pourpres l'abandonnèrent sur la berge du côté ville basse. Elle regarda autour d'elle et reçut une impression violente de dégradation. Ses couleurs ternes, cette odeur écœurante, ses bruits agressifs, ses visages effrayants, ce n'était plus une promenade pittoresque où elle frémirait d'indignation et d'excitation à la fois. C'était, dès à présent et pour le reste de ses jours, son quotidien et sa prison. Elle fit un effort sur elle-même pour ne pas chanceler, pour ne pas avoir l'air hagarde. Puis la brûlure lui rappela par un élancement qu'elle portait son désarroi sur son visage. Pourquoi les bas citoyens se porteraient-ils à son secours ? S'était-elle portée au leur depuis 20 ans qu'elle existait ? Il était parfaitement logique qu'ils la considérassent avec autant d'animosité et peut-être de haine que tous les autres. Ils jugeaient certainement ces querelles fratricides avec mépris et malveillance. Comment pouvait-elle espérer que ces gens nés dans la misère et dans la lutte pour la survie, tout à coup la prennent en pitié, elle, qui était assez capricieuse pour renoncer au confort ? Elle-même ne se prendrait pas en pitié. Si elle cédait ne serait-ce qu'un instant à cette tentation, son geste perdrait tout son sens. Elle se mit à marcher car son stationnement commençait à exciter les regards. Elle rabattit sa capuche, sans grand espoir que cela rendrait sa cicatrice moins remarquable. Il fallait qu'elle se repose, qu'elle réfléchisse, qu'elle s'organise. Mais comment ? Son sac était plein d'objets qu'elle pourrait peut-être vendre, mais auxquels elle était trop attachée. Stell lui avait donné quelques oboles, mais elle ne tiendrait pas longtemps avec ça. L'argent. À peine avait-elle posé le pied en dehors de la Haute-Ville qu'il devenait déjà un problème tentaculaire et lancinant. La nourriture se monnayait ici, ainsi que le logement. Même le corps et le travail se monnayaient. Comment pouvait-on vivre ainsi ?
dans ce souci constant, dans cette précarité? Quel choix infâme ou dégradant cela vous obligeait-il à faire? Voici des questions qu'elle ne s'était jamais posées, car l'argent n'avait quasiment pas cours en Hauteville. Les guildes, certes, embrassaient beaucoup, mais les citoyens seulement pour le plaisir, seulement pour s'encanailler en ville basse. Les guildes pourvoyaient généreusement à leur palais et à leur table, à leurs loisirs, à leur éducation. Elle était plongée dans ses pensées décousues lorsqu'un essaim de chafouin se mit à piailler autour d'elle. Elle utilisa l'esprit machinalement pour les dominer, et les petites créatures l'escortèrent à distance respectueuse. Elle les trouvait plutôt charmants, avec leurs yeux énormes et expressifs, leur pelage brun et leurs mains adroites. Puis ses yeux se posèrent sur l'enseigne de la frontière. Elle n'y était jamais allée, mais en avait souvent entendu parler. C'était un de ces lieux où l'on payait pour manger et pour dormir, une auberge. Elle pressa le pas en direction de la porte. Il était manifestement encore trop tôt, car la salle était vide de clients. Seules trois jeunes femmes s'affairaient au-dedans, qui auraient pu être jolies, songea Eleanor, si elles n'avaient eu la peau abîmée, quelques dents gâtées et les mains si épaisses. « Me renvoie-t-elle le miroir de ce que je deviendrai ?» se demanda-t-elle. L'une des servantes vint à sa rencontre, souriante, puis se figea en la dévisageant de près. « Vous ne pouvez pas rester là, » dit-elle. « J'ai des oboles, » dit maladroitement Eleanor. « J'espère pour vous, mais obol ou pas, je vais perdre ma place si mon maître vous trouve ici. On ne sert pas les apostats à la frontière. Maître Keller dit qu'ils font fuir les hauts citoyens.
Je n'avais pas pensé à cela, » dit Eleanor. Elle répugnait à utiliser le verbe pour la convaincre.
« Je pourrais rester dans ma chambre si vous ne voulez pas qu'on me voie, » dit-elle. « Je suis un peu fatiguée. »
La servante se retourna vers ses collègues qui observaient la scène d'un air dubitatif.
« À quelle heure il rentre? Est-ce que je sais, moi ?»
La servante qui s'adressait à Eleanor semblait prise de panique.
« Je suis désolée, madame, mais vous ne pouvez pas rester ici. Il y a des bars qui servent les apostats plus bas dans la ville. »
Eleanor résista encore à la tentation, pourtant très forte, d'utiliser le verbe.
« Bien, dit-elle. Excusez-moi, je ne voulais pas vous embarrasser. »
Elle tourna les talons sous l'œil effaré des servantes et s'apprêtait à ouvrir la porte lorsque celle-ci s'ouvrit brutalement. Un homme entrait, et Eleanor baissa prestement la tête, en faisant mine de vouloir sortir.
« Eh bien, dit l'homme, quel est donc ce personnage qui fuit à la fois mon établissement et mon regard ?»
Eleanor, que l'homme empêchait de passer, releva la tête lentement. Il parut frappé en voyant son visage, mais elle ne lui laissa pas le temps de parler. « Seulement quelqu'un que vous refusez de servir. » Keller regretta sa méprise. Il s'était attendu à voir un hat discret, blanchâtre, à demi enfoui sous les plis d'une peau semblable à celle de Kettel. Il ne s'était pas imaginé cette blessure sanglante et suintante qui défigurait totalement un visage très jeune. « Avant de prendre congé, je tiens à dire à la décharge de vos employés qu'elles ne m'ont aucunement incité à rester. »«
Allons, allons, c'était simplement de leur part un excès de zèle, » dit-il en fusillant les trois filles du regard.
Ces dernières retournèrent vaquer à leurs occupations sans souffler mot, tandis qu'Eleanor réitérait sa tentative d'atteindre la porte. « Vous avez besoin d'une chambre et de soins, je suppose. »
Eleanor se sentait humiliée. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? » demanda-t-elle d'un air farouche.
« Ce qui me fait dire ça, ma petite, c'est votre vilaine brûlure qui va bientôt s'infecter et qui coule déjà sur votre joue. Mais peut-être ne l'avez-vous pas remarqué ?»
Eleanor utilisa l'esprit pour garder son sang-froid, mais son énergie spirituelle était presque épuisée.
« Et ce n'est pas la peine de faire briller votre cristal, » ajouta Keller. « Ça ne m'impressionne pas du tout. »
Eleanor devint glaciale.
« Je vous demande pardon pour mon erreur, monsieur. Je n'ai pas fait appel à votre charité. Je suis simplement entrée en pensant que mes oboles ne seraient pas, elles, marquées d'infamie. Je ne vois pas l'utilité de poursuivre cette conversation. Et moi, je n'ai fait que vous proposer une chambre et des soins, sur quoi vous m'avez répondu avec l'arrogance usuelle de votre caste. »
« De quelle caste parlez-vous donc, monsieur? De celle que vous jetez ordinairement à la porte de votre établissement ?»
Keller tenta de se reprendre. Cette jeune fille était pire que tout ce qu'il avait pu imaginer. Mais il avait conclu un marché et donné sa parole. Il ne la laisserait pas sortir dans cet état.
« Le repas coûte une obole, la nuit trois, » récita-t-il. « Je vous ferai porter les repas dans votre chambre et vous ferai mander un guérisseur avec lequel vous vous arrangerez. » « Quelle que soit l'opinion que vous avez de moi, je ne vous conseille pas d'aller chercher un toit plus loin. La ville basse ne respecte ni les apostats, ni les femmes, ni les blessés. »
Eleanor hésita. Elle était en colère contre ce rustre, mais son esprit rationnel était habitué à dominer ses sentiments.
Elle avait de surcroît une immense envie de se retrouver seule. « Faut-il vous payer d'avance ?»«
Oui, s'il vous plaît. »
Elle sortit un petit sac dans lequel s'amassait sa petite fortune. Dans un scintillement de sa demi-lune bleutée, elle saisit une poignée d'obol, presque sans regarder, et la tendit à Keller. « 2 nuits et 4 repas, 10 obol. » Keller contint son étonnement. Elle venait de prendre 10 obol sans les compter, comme il aurait fait lui-même pour 3 ou 4. Il les dénombra des yeux, craignant de passer pour un imbécile s'il les comptait à la main. « Le compte y est, dit-il, je vous accompagne. » Il remarqua qu'elle paraissait immensément fatiguée, maintenant qu'elle ne se disputait plus. Il l'accompagna jusqu'au premier étage et lui remit la clé de sa chambre. « Merci, dit-elle. Ne me remerciez pas, je ne fais que faire fonctionner mon commerce. » Elle sourit, comme pour elle-même. « C'est au moins un avantage de l'argent, dit-elle. Cela évite d'éprouver de la gratitude envers n'importe qui. » Il apprécia la remarque et sourit à son tour. « Nous voilà au moins un point commun, dit-il en s'éloignant. Je hais la gratitude. » Elle le suivit des yeux, puis poussa la porte de sa chambre avec un immense soulagement. C'était une chambre exiguë, et Eleanor trouva étrange ce confinement dans une pièce en bois. Le parquet et le lambris des murs, la charpente du plafond, tout était fait dans ce même matériau, qui lui semblait à la fois très rustique et encore vaguement exotique. Il y avait une unique fenêtre qui donnait sur le canal. Un lit au sommier usé, une armoire un peu branlante, une table des plus simples et un tabouret en formaient l'unique mobilier. Une cuvette était posée, à côté d'un broc d'eau et d'une serviette. Eleanor regarda toutes ces choses d'un œil froid, repoussant les images de carrelages luisants, de fontaines et d'ébénisteries qui lui venaient à l'esprit. Il allait falloir apprendre à vivre ainsi, dans ces espaces réduits, avec ces matériaux sans grâce, dans un univers où la beauté n'avait aucune importance et où la sécurité seule représentait un luxe. Elle s'assit sur le lit, épuisée, et tenta de réfléchir. La douleur de sa brûlure était toujours cuisante, mais elle s'efforçait de ne pas y prêter attention. Elle avait 2 jours et 2 nuits devant elle, et ne savait par où commencer. La tâche à résoudre lui paraissait démesurée. Il fallait guérir, trouver un logement, et de quoi gagner assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Il fallait se composer un personnage qui se coulerait dans cette nouvelle existence. Il fallait cesser d'être Eleanor et devenir quelqu'un d'autre. À cette pensée, son esprit conçut une idée à la fois absurde et convaincante, le genre d'idée qu'elle avait toujours eue et qui avait toujours fait l'étonnement de son entourage. Elle alla changer de nom, puisqu'elle ne pouvait plus être Eleanor, qu'elle avait quitté les habitudes et l'environnement de la jeune fille qu'elle avait toujours été, il lui fallait un nouveau nom. Un nom qui engloberait sa cicatrice, qui prendrait ce « A » brûlant comme initial. « A Eleanor », songea-t-elle. Cela convenait très bien. C'était son nom défiguré. C'était son nom devant lequel ce « A » s'imposait comme une cicatrice. C'était le seul nom qui pouvait encore respecter l'identité de son nouveau visage. Satisfaite, et pourtant consciente que ses problèmes n'avaient en rien été réglés, elle s'allongea sur le lit. Peut-être avait-elle besoin de sommeil. Peut-être, à Eleanor, y verrait-elle plus clair quelques heures plus tard. Un étage plus bas, Keller, profondément troublé par les événements de la matinée, se livrait à ses occupations habituelles. Il supervisait l'élaboration des repas en cuisine, tenait à jour ses comptes, pointait le service de ses employés, recevait ses fournisseurs, accueillait les clients. Il avait presque immédiatement, après avoir accompagné Eleanor jusqu'à sa chambre, demandé à l'une de ses servantes d'aller chercher un guérisseur, qui arriva avec un certain retard. C'était en fait une guérisseuse, une femme d'âge mûr, décente et discrète, que Keller avait déjà rencontrée à diverses occasions. Elle apportait avec elle tout ce dont elle avait besoin pour opérer. « C'est une brûlure, expliqua-t-il, assez sévère. Sur quel endroit du corps ? Au visage, dit-il d'un air lourd de sous-entendu. La guérisseuse hocha la tête en signe d'assentiment. « C'est arrivé récemment ?»«
Ce matin même, et ce n'est pas joli à voir. À qui dois-je m'adresser pour le paiement ?»«
Je pense qu'elle a assez d'obol, sinon fais-moi prévenir. »«
Ah, bien sûr, ce que tu verras ne devra pas sortir des murs de mon établissement, » ajouta-t-il en lui donnant quelques obol supplémentaires. « Comme d'habitude, maître Keller. »
Il la regarda monter l'escalier, et s'efforça de ne pas imaginer la scène qui était en train de se passer lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre. Midi approchait, et les clients commençaient à affluer. Ils préféraient toujours être présents en salle dans ces moments d'affluence.
Il était aux prises avec un ivrogne réclamant l'aumône d'une chope et venait juste de le reconduire fermement à la porte lorsque sa servante attira son attention avec une mine inquiète.
« Il y a un problème là-haut. La guérisseuse veut que vous veniez. »
Keller salua civilement deux hauts citoyens qui étaient des habitués du lieu et monta le plus discrètement possible jusqu'à la chambre. La guérisseuse avait fermé à demi les volets et ses yeux mirent un peu de temps à s'accoutumer à la pénombre. Une forte odeur d'onguents médicinaux flottait dans l'air et la guérisseuse était en train de déshabiller Eleanor pour lui tamponner le corps d'un linge frais. La jeune fille était inconsciente et murmurait en langue noble.
« Heureusement que tu m'as fait venir aussitôt, » dit la guérisseuse. « L'infection a déjà gagné. Elle est brûlante de fièvre et délire depuis tout à l'heure. »
Elle semblait aller bien pourtant lorsqu'elle est arrivée ici.
« Les hauts citoyens sont comme ça, » dit-elle en haussant les épaules. « Ils forcent sans arrêt sur leur esprit et sur leur corps quand ils sont éveillés, et le sommeil les foudroie ensuite de tous ces maux. »«
C'est fréquent ?» demanda-t-il. « Je n'ai jamais vu un haut citoyen qui dormait paisiblement. Ça doit être le poids de tous leurs péchés qui les torturent pendant la nuit. »
« Va-t-elle survivre ?» demanda-t-il.
« Bien sûr, » dit la guérisseuse d'un ton condescendant. « Je connais mon métier. »
Keller se sentit un peu ridicule et préféra se taire. « Seulement il n'y a personne de vaillant pour me donner l'obol, vois-tu, maître Keller ? Je ne me serais pas permis de regarder dans son sac. »
Keller jeta un œil sur le sac d'Elénor qui gisait à terre et était prêt à parier que la guérisseuse venait de mentir et avait effectivement dépouillé Elénor d'un nombre d'oboles suffisant pour son salaire, mais il n'en dit rien.
« Tu as bien fait. Je détesterais qu'un de mes clients se fasse dépouiller sous mon toit, » commenta-t-il d'un ton amène mais discrètement menaçant.
« Combien je te dois ?
12 oboles !»
Keller la paya sans remarquer tout haut que son prix était très élevé.
« Les hauts citoyens coûtent plus cher, » expliqua-t-elle.
« Pas chez moi, » répondit Keller. « À la frontière, tout le monde paye son pain le même prix. »«
Chacun son idée de la justice, » dit-elle avec un demi-sourire.
Keller lui tourna le dos pour regarder la vue par la fenêtre.
« Remets tout en place, » dit-il.
Il ne la regarda pas ranger ses affaires et ne sut pas si elle remit quoi que ce soit dans le sac d'Elénor.
« Au revoir, » dit-elle. « Je ne crierai pas sur les toits que maître Keller protège les apostats. »
Keller se tourna franchement agacé. « Je ne crierai pas sur les toits que tu fouilles dans les affaires de tes patients. »
La guérisseuse sembla hésiter entre une attitude outragée ou un éclat de rire.
« Ne t'inquiète pas, maître Keller, ta haute putain ne s'apercevra de rien. »
Puis, sans attendre la colère qui risquait de tomber sur elle, elle fila.
Keller maugréa dans sa barbe et ferma la porte à clé. Eleanor délirait toujours à voix très basse, en langue noble. Il s'approcha d'elle et essaya de comprendre. Il ne reconnaissait que quelques mots épars, dont le mot « non » et le mot « tomber », ainsi que le son « a », étrangement prononcé pour lui-même. La guérisseuse semblait avoir bien travaillé, malgré tout, et la cicatrice semblait propre, recouverte d'un baume. Keller couvrit à nouveau la jeune fille, qui semblait avoir froid, et se demanda à quoi il s'était engagé. À courir le risque de voir s'écrouler sa réputation d'homme inflexible ? À s'encombrer d'une gamine insolente qui n'écouterait jamais ses conseils, à perdre peut-être une partie de sa clientèle. Elle lui semblait moins terrible à présent qu'il la voyait inconsciente dans le pauvre lit de son auberge. Une curiosité irrépressible lui fit ouvrir le sac, et il se persuada lui-même que c'était seulement pour s'assurer que la guérisseuse n'avait pas tout emporté. Le sac de bol y était encore, ainsi que quelques vêtements d'une étoffe très douce, quelques livres, quelques bijoux, et une étrange boule de verre dans laquelle s'agitaient des volutes liquides. Cet objet était si mystérieux qu'il le garda dans sa main pendant de longues minutes.
Là-haut, pensait-il, c'était sans doute un objet aussi usuel qu'une cuillère ou une brosse.
Là-haut, cet objet portait un nom que tous connaissaient, et les enfants de 5 ans savaient probablement s'en servir. Et il se sentit dépossédé devant tout ce savoir élevé comme une muraille, dépossédé de tout ce qui faisait de lui un homme libre. Il était ignorant, ignorant et stupide, inférieur en tout à cette jeune fille qui lui était confiée. Il reposa la boule dans un grand malaise de l'âme et se frotta le visage. « Apprendre, se dit-il, apprendre est le seul chemin vers la liberté. »